cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 14 janvier 1993.
Une brisure intérieure, plus qu'une fêlure. fait dur, c'est la maladie, une maladie grave. Et la mort, c'est une brisure irréductible. Je ne peux pas la reprendre. C'est ça qu'il y a de... C'est là où on touche l'aspect mystère de la mort. Mais tout ce que je peux reprendre n'est pas un mystère. Ce serait peut-être la meilleure définition du mystère. Quelque chose que je ne peux pas reprendre. Oui, tout ce que je peux reprendre, ce n'est pas un mystère. Je peux l'analyser. La mort, je ne l'analyse pas. Elle m'échappe. Ce n'est pas une brisure de l'être. Bien que la mort atteigne l'être, mais ce n'est pas directement une brisure de l'être. C'est une brisure de l'amour d'amitié. Donc, de la vie, dans ce qu'elle a de plus profond, même spirituel. Il y a quelque chose de spirituel dans cette brisure. Parce qu'elle est irréductible. Et elle est substantielle. Parce qu'elle est substantielle, elle touche l'être. Mais pas directement. Puisque je constate les effets de la mort. Et les effets de la mort, ce n'est pas le néant. Le corps est totalement transformé en cadavre. Et le cadavre me montre la contingence du corps humain. Me montre que le corps humain a une fragilité substantielle. Puisque le cadavre ne garde plus son unité organique. Il se décompose. Et donc, par le point de vue de la de cette perte d'unité, j'atteins la perte de son être. Quant à l'âme de mon ami, je suis convaincu par l'amour que j'ai pour lui que la mort ne supprime pas son exister. Mais j'ignore ce qu'elle devient. Quand j'aime spirituellement quelqu'un, je ne peux pas accepter que la mort supprime son exister. J'en ai une conviction intérieure dans l'amour. J'allais dire, j'en ai une espérance humaine. Et ça me posera le problème de l'immortalité de l'âme. C'est la mort qui pose le problème de l'immortalité de l'âme. Et je verrai quand je peux résoudre ce problème. Mais le problème est posé à la mort de l'ami. Ça implique une brisure dans l'être. Mais ce n'est pas premièrement une brisure de l'être. C'est une brisure de la vie. Et une brisure de la vie dans ce qu'elle a de plus parfait. La vie de l'amour d'amitié. Donc de l'engagement des deux amis. Je crois que c'est ce que nous devons comprendre en premier lieu quand nous regardons le point de vue de la mort au plan philosophique. Les anciens, les Grecs, traitaient toujours la mort, ce que je vous disais, par le point de vue de l'art dramatique, ou pas du religieux, la mort ira. C'est-à-dire qu'on est conduit et que la mort échappe à l'homme, et la mort regarde le destin. Et le destin au regard des dieux, au regard de Dieu. La mort nous met en présence de l'être absolu. Et ça échappe à l'art humain et à l'amour humain. Oui, là je sens la vanité toute chose. Puisque la mort fait que on quitte ce monde. Il y a une rupture à l'égard de ce monde. L'ami qui meurt n'est plus de ce monde. Je ne peux plus l'atteindre. Je cherche éperdument d'être en relation avec lui. Vous voyez ce que Gabriel Marcel dit là-dessus. Parce que toute la philosophie de Gabriel Marcel, c'est la recherche de ces trucs de c'est la recherche de l'ami qui est disparu. C'est très curieux. C'est une philosophie une philosophie de la nostalgie de l'immortalité. Donc vous voyez, je ne dis pas que la mort ne touche pas l'être, mais indirectement. Donc ce n'est pas l'être qui explique la mort, c'est la vie. Mais cependant, l'être a quelque chose à dire, puisque la mort a quelque chose de substantiel, une rupture substantielle. Peut-on la montrer en philosophie du vivant dès le point de départ? Je dirais le problème de la mort montre la limite de l'amour d'amitié. Puisque c'est une rupture substantielle de l'amour d'amitié dans son exercice. Et l'amour d'amitié réclame l'exercice, la vie commune. Alors c'est une brisure de cet exercice. Donc c'est quand même une brisure de l'exercice de l'amour d'amitié, donc de l'amour d'amitié lui-même. Alors, ça pose le problème de ce qui est le fondement de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est l'aspect ultime de la vie humaine. La mort pose le problème de la vie. Pour savoir ce que c'est que la mort, il faut regarder la vie. L'amour d'amitié n'explique pas la mort. Puisque l'amour d'amitié me met dans le scandale en face de la mort. Je suis scandalisé par la mort. La mort provoque en moi le scandale. Par rapport à l'ami. Et donc, ce n'est pas l'amour d'amitié qui explique la mort. C'est quelque chose de plus profond. Puisque la mort est la rupture de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Il faut savoir ce que c'est que le vivant pour comprendre la mort. La mort est l'aspect négatif de la vie. Directement. Vous voyez, ce n'est pas l'expérience du vivant, puisque c'est la négation d'expérience du vivant. Mais ça me pose le problème, puisque ça me scandalise. Alors puis-je éviter ce scandale? Puis-je répondre à ce scandale? Et pour pouvoir répondre à ce scandale, je dois me poser la question, qu'est-ce que c'est que le vivant? Et le vivant parfait qui est l'homme. Résoudre ces trois difficultés. Je n'ai plus d'expérience de l'âme, de mon avoir. Oui. Le cadavre est équivoquement. Pardon, je n'ai plus de mon pas seulement de l'âme de mon ami. Le cadavre n'est pas une... Le cadavre est une présence négative. C'est pas une présence positive de l'ami. C'est la présence négative de l'ami qui n'est plus là. Alors c'est le vestige de l'ami. Mais ce n'est plus l'ami. Ah, c'est net. Et vouloir, voyez, faire une momie du cadavre de mon ami, c'est un mensonge. Et ce n'est pas sain. C'est vouloir me tromper moi-même. C'est très curieux, ça. Et je crois que c'est très important. Parce que, vous voyez, garder une momie, le cadavre, c'est comme une présence. Alors, la présence n'y est plus. Donc c'est une fausse présence. C'est une fausse présence. C'est simuler une présence. Et ne pas accepter la réalité de la mort. C'est sûr que l'homme voudrait bien masquer la mort de multiples manières. La masquer de cette manière-là. Mais ce n'est pas la réalité. Si je suis vrai, je dois accepter cette expérience de la mort de l'ami. Ça fait partie de ma vie. Et ça fait partie de ma manière de connaître l'homme. Il est périssable, il est corruptible. Le cadavre est équivoquement, de manière équivoque son corps. Analogiquement, si vous voulez, par le point de vue de la cause matérielle. Mais comme la cause matérielle ne définit pas le vivant, on peut dire équivoque. Il y a une équivocité complète. C'est-à-dire qu'il y a une rupture totale, radicale. Je voudrais bien pouvoir ressusciter mon ami. C'est parce que je ne peux pas ressusciter mon ami que je vois que je ne suis pas Dieu. Vivre et sa manière d'être. Oui, quand je dis que ma vie, c'est mon être, que ma vie, c'est ma manière d'exister, ce qui est injuste. Tout mon exister est dans ma vie. Mais cependant, je distingue ma vie de mon exister. Et la mort va faire la brisure de cette distinction. Puisque mon être peut, l'être de mon ami peut continuer d'exister. Par son âme, pas par son corps, mais par son âme. Mais je n'atteins plus son âme. Je chercherai par tous les moyens de l'atteindre. Et dans l'humanité, il y a toujours eu cette espèce de recherche d'atteindre l'âme de celui qui n'est plus là. On voit même ça dans l'Écriture. Interroger les morts. Et le démon aime beaucoup de susciter ça. Oui. De faire croire que il peut faire ça. Ça, c'est un problème qui dépasse évidemment le point de vue philosophique. C'est un problème de foi. Dans quelle mesure le démon peut-il répondre n'entrons pas là-dedans, sauf s'il y avait des questions très précises dans ce domaine-là, on pourrait essayer d'y répondre. Et c'est très complexe, c'est très très complexe. C'est tout le domaine de la superstition, c'est tout le domaine aussi du démon. Parce que le démon veut nous faire perdre du temps. Il ne faut jamais oublier ça. Le démon veut nous faire perdre du temps en nous faisant croire que nous pouvons atteindre les âmes séparées de ceux que nous aimons. Alors, il joue là-dedans. Il a beau jeu, parce qu'on ne peut pas vérifier. Alors, il maintient notre crédulité dans notre espérance. Quelqu'un qui est dans une soif de savoir. On devient très crédule quand il est en face de quelque chose qu'on ne peut plus atteindre humainement, ni philosophiquement, ni scientifiquement. Et c'est pour ça que l'Église condamne. Parce que c'est une perte de temps. Alors, nous allons continuer. Donc, le problème du vivant se pose avec acuité. Par le fait de la mort. Et je me pose ensuite, qu'est-ce que c'est que le vivant ? Et comme la vie implique une immanence, je vois que pour comprendre je ne peux que faire appel à mon expérience personnelle. Autrement dit, je suis dans une situation privilégiée pour saisir moi-même comme vivant. Et j'ai là une situation unique. philosophie du vivant, c'est la philosophie du vécu. Est-ce que la philosophie du vivant implique l'introspection? Et ça, c'est un problème très, très délicat de critique. Nécessaire au point de départ pour élaguer tout ce qu'il y a de faux dans l'introspection. Dans la philosophie du vécu. Parce que qui dit philosophie dit saisie de quelque chose d'universel. Il faut saisir un principe. Autrement, c'est plus la philosophie. Je peux décrire mes états de vie. Je peux décrire cette expérience tout à fait particulière que certains prétendent avoir, d'avoir été au bord de la mort et d'avoir vu leur âme, d'avoir vu cette espèce de passage mystérieux du monde physique qu'on abandonne et on entre dans la lumière. Très bien, mais je dis ça, c'est pas philosophie. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas l'expérimenter. C'est purement subjectif. Je connais quelqu'un qui m'a raconté son expérience là-dessus. Je lui dis alors, refaites cette expérience. Ah, attends, je ne peux pas. Tant mieux. Tant mieux, parce que moi je touche la table. Je peux retoucher la table. C'est quelque chose de ma vie. Je pense et je me mets à repenser. Toutes mes expériences de vie, je peux les refaire. Il n'y a que la mort que je ne peux pas faire ni refaire. Alors là, je suis devant une expérience soi-disant privilégiée. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce purement imaginatif? Purement affectif, ou est-ce une expérience vraiment humaine, c'est-à-dire objective? Mais il faut faire attention, hein. La philosophie du vivant repose sur une expérience humaine, à la fois intérieure et extérieure, objective et subjective. Ça qui est très cru. Et ceci ne me gêne pas, puisque objectif et subjectif est une distinction typiquement humaine que l'intelligence comme intelligence dépasse. Intériorité, extériorité, nous l'avons vu. L'intelligence comme telle dépasse. Donc, c'est pas gênant. Beaucoup frappé celui qui l'a vécu. Ça a peut-être changé complètement sa vie. moi, ça peut changer beaucoup de choses dans ma vie. Mais c'est pas ça qui va me donner. Ça me donne une expérience extrême, voilà.
Il se meut dans telle détermination.
arrivé. Je ne peux plus me redresser, mais j'ai encore la possibilité de faire appel à mes vieilles pattes très évoluées, mes deux mains. Et je me remonce comme ça. C'est extraordinaire de voir ça. On voit ça chez l'enfant, on voit ça chez celui qui est tombé et qui n'arrive plus à se relever et qui essaie par tous les moyens de se relever. Vous voyez, le « c'est mauvais ». L'expérience de celui qui se meut. Je n'ai pas cette expérience de celui qui se meut quand je regarde justement le petit gosse qui est tombé et qui essaie de se redresser. Ou du vieillard qui n'arrive plus à se lever. C'est très important de comprendre qu'il y a un type d'expérience tout à fait nouveau, qui n'est pas du tout l'expérience que j'ai de la matière qui est mue. Donc, de ce qui est mue. L'expérience de ce qui est mue est une expérience étrangère à moi-même. L'expérience de celui qui se meut est une expérience intime à moi-même, que je porte en moi. C'est pas d'introspection. Alors, quelle différence y a-t-il entre une méthode introspective et l'expérience philosophique de celui qui se meut ? C'est que l'expérience introspective regarde le vécu. L'expérience philosophique de celui qui se meut dépasse la subjectivité pour atteindre ce qu'il y a de réel dans celui qui se meut. De ce qu'il y a de réel par rapport au monde physique. Je reste en contact toujours avec ce qui existe en dehors de moi et ce qui existe au-dedans de moi-même. Je vois que mon corps se meut et je fais l'expérience de mon corps qui se meut. Là, la gymnastique permet d'avoir une expérience très spéciale du corps qui se meut et de la souplesse du corps. Et je projette sur les autres ce que j'ai comme expérience. Je sais que les autres peuvent faire ce que je fais avec mon corps. Et que s'ils ne le font pas, c'est parce que, ou par la vieillesse, la vie n'a plus sa souplesse. La souplesse du corps d'un petit enfant. C'est extraordinaire. Je peux faire des ronds. Un gosse qui fait du ski. En montagne, c'est admirable. Et la manière dont il fait des culbutes avec son ski, puis qu'il repart. Et si une grande personne ne veut imiter, hein, il y aura des accidents. Et le gosse n'a pas l'expérience. Il fait ça instinctivement. Et c'est pour ça que de fait, même quand vous descendez un escalier à toute vitesse et que vous y réfléchissez, attention. Mais ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui échappe à la réflexion dans l'expérience de celui qui se meut au point de vue du corps. Mon corps n'est pas entièrement lucide. Alors, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Hein, oui. Enfin, on ne sait pas ce que c'est, puisque c'est justement au-delà de la lucidité. Disons, ce qu'on ne connaît pas dans la lucidité, c'est instinctif. Et que vous voulez avoir la lucidité de l'instinct, l'instinct ne marche plus. C'est très curieux. Au plan philosophique, l'instinct, c'est quelque chose qui échappe à ma conscience. C'est négatif. Mais cependant, ça fait partie de ma vie. Et ça fait partie de la souplesse de dans mon être. Et tant que je n'arrive pas à le faire instinctivement, je fais mal. Et donc c'est quelque chose de très très fondamental dans le « c'est mauvais » du point de vue de l'expérience du corps. C'est quelque chose de très radical. Et je peux étudier, et je dois étudier, ce que représente cette expérience propre de celui qui se meut localement. Je fais l'expérience de celui qui se meut quand il mange. Alors, il y a une expérience limitée, puisque je ne fais pas l'expérience de ma digestion, sauf quand c'est trop lourd, trop dur, trop amer, trop... Alors là, je ne sais pas plus. Oh, que ça fait mal. Bon, on s'aperçoit du mal, mais quand je digère bien, je digère bien. Je ne dis pas que je suis mal. Non, je digère bien. Je m'en occupe plus. Et quand vous vous occupez trop de votre digestion, attention. C'est vrai, celui qui a mal en disant il s'en occupe de trop, oubliez un peu que vous digérez. Ça digérera tout seul. Et votre point de vue psychologique est là, qui s'inquiète de ça, et qui s'inquiète, ah c'est la mauvaise heure, ah ça y est. Alors c'est là où on dit que le psychisme joue énormément, et c'est vrai, il joue énormément, bon, c'est pas mal, c'est un fait. On s'inquiète de ça, dès que vous vous inquiétez d'une chose naturelle, ça deviendra quelque chose de dangereux. Vous voyez, toutes les expériences du c'est mauvais, au niveau instinctif, au niveau végétatif, au niveau sensible, au niveau imaginatif, au niveau intellectuel, on reviendra là-dessus. C'est toujours celui qui se meut.